au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia de Witt.
Madame, Monsieur, bonjour. En ce début d'année, nous reprenons nos bonnes habitudes et nous retrouvons donc notre rendez-vous mensuel avec Michel Crépu, rédacteur en chef de la revue Des Deux Mondes, qui vient nous présenter le numéro de janvier. Bonjour Michel.
Bonjour Laetitia.
Aujourd'hui, donc, vous nous présentez le numéro de janvier qui aborde deux thèmes différents. Tout d'abord, vous fêtez l'anniversaire de mai 68. Mmh. Autour des périodes de rupture. Et vous traitez aussi un autre sujet tout à fait d'actualité qui est sur l'information. Informer a-t-il encore un sens ? On verra, oui ou non, on verra plus tard. Mais tout d'abord, je voudrais qu'on commence par l'entretien avec François Julien et Philippe Solaire sur la Chine. Ils semblent déjà tous deux d'accord sur le fait sur notre méfiance injustifiée d'ailleurs, envers la Chine.
Oui, l'idée de cet entretien qui a été réalisé par Paul-François Pauli, qui est par ailleurs journaliste au Figaro, au fond réunissait, a été l'occasion de réunir deux personnages, l'un philosophe, François Julien, et l'autre écrivain, Philippe Solaire, qui sont tous les deux, depuis longtemps, concernés par la Chine. Non pas en tant que spécialiste, si vous voulez, au sens universitaire du thème, encore que François Julien ait des fonctions tout à fait universitaires, mais au sens où la préoccupation pour la Chine recoupe d'autres préoccupations qui ne sortent des limites d'un champ strict qui serait l'affaire exclusive d'un spécialiste. Là, en fait, la grande affaire, c'est de s'intéresser à la Chine en tant qu'occidental, en tant qu'européen, sans du tout entretenir cette idée un peu utopique, un peu fantasmatique d'un échange des cultures ou d'une sorte de fascination comme ça qui pourrait donner l'envie de changer d'identité. Au contraire, là, il s'agit plutôt, comme le dit très bien Julien, depuis longtemps d'ailleurs, au fil de ses ouvrages, on passe par la Chine pour revenir
sur nous-mêmes.
Maison,
ouais. Guillemets, hein. Ouais.
Et dans le cas de Philippe Solaire, c'est un peu la même chose, même si le parcours est plus marqué par des scansions littéraires. Il évoque Claudel, Ezra Pound, qui sont deux figures tutélaires de la littérature au XXe siècle, qui ont compté pour Solaire.
Oui, c'est une approche plus spirituelle, on va dire.
Oui, on peut dire ça, oui, tout à fait.
Puisque une des questions étant aussi de savoir si la Chine peut accéder au mode de consommation occidental, le sens occidentalisé.
Mais vous savez,
autour de la démocratie.
Oui. En fait, c'est une vieille question, c'est une vieille affaire. Quand vous reprenez, par exemple, on aurait très bien pu l'évoquer, ce petit livre de Malraux, La tentation de l'Occident. La tentation de l'Occident veut bien dire ce qu'elle veut dire. Et au fond, ce texte de Malraux, qui date de 1923, à bien des égards, pourrait être lu aujourd'hui comme tel. Dans une problématique qui n'a guère changé. Qu'en est-il de la Chine ? Enfin, ça, c'est une question.
Voilà, qui est loin d'être clôturée, d'ailleurs.
Qui est loin d'être close. Ouais.
Donc, nous allons quitter la question chinoise pour une autre aussi d'actualité, celle des mutations de l'information et de ses nouveaux supports. Mm-hmm. Donc, Thomas Bronek, journaliste au web de l'Express, présente ses nouveaux vecteurs d'information. Qui sont-ils et constituent-ils une réelle menace pour les médias traditionnels ?
Voilà, c'était l'occasion en effet avec Thomas, qui maintenant, au fond, fait partie avec beaucoup d'autres journalistes comme lui, de cette génération de journalistes qui travaillent maintenant dans un contexte technique totalement différent de celui qu'on a pu connaître il y a encore 10 ans, où l'outil médiatique ne se résume pas du tout seulement à une machine à écrire, fut-elle un Macintosh ou je ne sais quoi, mais utilise la vidéo, le web, et aboutit surtout, et c'est ça le fond de la question de ce dossier, aboutit à une interrogation un peu vertigineuse sur la notion d'information en elle-même. Qu'est-ce que c'est qu'une information ? Et qu'est-ce que c'est que faire le métier d'informer, dans la mesure où aujourd'hui, maintenant, n'importe qui, au sens strict du terme, peut prétendre transmettre de l'information. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui continue de légitimer ou non qu'on s'intitule journaliste et qu'on fasse profession de journalisme? C'est le fond de ce dossier, qui donc a réunit notamment deux personnages qui sont relativement encore peu connus dans le paysage, Andrew Keen et Camille, qui sont des acteurs un peu du web d'aujourd'hui, et puis Bruno Patino, qui donc, vous savez, le
vice-président,
enfin, était, puisqu'il vient d'en démissionner, était membre du directoire du Monde et chargé depuis longtemps du développement du Monde sur le web, et donc qui avait publié il y a 2 ans un petit livre tout à fait passionnant, avec Jean-François Fogel, intitulé « La presse sans Gutenberg », qui dit bien son nom aussi, où il posait un certain nombre de questions qui, en réalité, depuis, n'ont fait que grandir et n'ont fait couvrir encore plus grande la question sur ce qu'il en est aujourd'hui d'informer.
Oui,
d'où le titre du dossier.
Un des problèmes étant aussi la perte de monopole, je dirais, de la part des journalistes, justement, du traitement de l'information.
Complètement. Donc,
et du coup, après le fossé qui se creuse entre le journalisme dit participatif, donc par tous ces sites web qui mettent une information libre, entre guillemets, et la critique maintenant de la presse traditionnelle qu'on dit aux bottes du pouvoir et qui traite de l'information pas sur l'instant, de peur de... Enfin, il y a le cas du divorce Sarkozy qui est symptomatique de cette époque-là, de ce problème-là.
Oui, on est vraiment entré dans une phase que personne ne contrôle vraiment en réalité. L'histoire des gratuits, par exemple, comment dire, on est maintenant déjà loin de simplement des petits journaux gratuits que les gens se prennent en prenant le métro le matin. Vous savez, c'est un petit peu comme les poules qui arrivent au grain, chacun va prendre son truc. Mais c'est rien par rapport à ce que la gratuité a entraîné de changements dans les comportements, notamment sur le web, où maintenant, il y a presque une... Pour les gens qui naviguent sur le web, la gratuité est devenue pratiquement une évidence. Et donc, comme certains, dont moi d'ailleurs, puisqu'on a un site, on va avoir un site là bientôt, vraiment avec un accès gratuit, mais un accès aussi payant, ça pose des problèmes parce qu'il y a un certain nombre de gens pour qui le fait d'avoir à payer est purement impensable. Enfin, la norme est la gratuité.
Ouais, le fond du problème finalement est là. Et c'est pas tant sur le métier de journaliste qui existe toujours, et c'est ce que disent aussi bien Bruno Patino que Bronek, c'est la gratuité et le problème soulevé par la gratuité, puisqu'on n'accepte plus de payer pour avoir l'information.
Alors, bon,
et d'ailleurs, il est assez négatif, puisqu'à la fin, Patino termine son article sur l'ignorance des États-Unis qui, justement, découle plus ou moins de là, de la mauvaise information qui vient de cette histoire de gratuité qui bouleverse le système.
Oui. Enfin, bon, je pense que tout ça va continuer, bien sûr, de suivre son évolution. J'observe avec intérêt, par exemple, l'initiative de Plenel de lancer un site payant. Je fournis de l'information, un travail d'enquête, tout travail mérite salaire, donc voilà. Mais là, on est dans une situation vraiment
complexe,
très inédite.
Histoire à suivre. Donc, finalement, ce n'est pas la fin du journalisme, mais on assiste à une période de rupture.
De profonde métamorphose, de rupture.
Et de rupture, ce qui nous permet de passer au dossier suivant.
Absolument.
Sur les époques en rupture, et essentiellement, donc, mai 68. Puisqu'vous évoquez les figures de Jean-François Bizot, de Maurice Clavel, de Claude Pélieu. Mais le dossier commence par une autre évocation beaucoup plus surprenante, qui fait allusion à Rome, avec des lettres inédites du Poggé.
Du Poggé, oui. Alors ça, je suis très content de ça, parce que, en fait, si vous voulez, d'abord, vous savez, les dossiers parfois se font... On improvise, on ne sait pas très bien où on va, et puis à un moment, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui prend. Bon. Et là, le point de départ, en fait, c'était pas du tout 68, c'était de publier des lettres de ce grand humaniste italien de la Renaissance, un contemporain de Machiavel, le Poggi, qui a écrit un grand livre qui est en cours de traduction, qui s'appelle Les ruines de Rome, où, justement, en bon personnage de la Renaissance, il considère que la méditation des événements de l'Antiquité à travers les ruines est une manière de comprendre son propre présent, sa scène politique à lui. Et donc, Jean-Yves Boriot, qui est le traducteur du Poggi aux belles lettres, m'a gentiment proposé donc de publier dans la revue quatre lettres inédites du Poggi, qui ont un peu tout en commun, justement, cette thématique commentée par Boriot. Et puis, à partir de là, je me suis dit que ces questions qui agitaient et tourmentaient nos ancêtres de la Renaissance, où cette question de la rupture, de la ruine, de l'effondrement d'une civilisation était un objet de méditation, eh bien, on peut très bien se l'approprier aujourd'hui pour des événements qui sont bien sûr les nôtres, enfin, 68 en faisant partie, naturellement. Et voilà comment l'idée est venue de réunir ces contributions qui n'ont pas grand-chose à voir en commun, sinon d'être toutes concernées par cette question de comment vivre une rupture et quel enseignement tirer des événements qui arrivent, tout simplement. Mmh. Donc, voilà pourquoi vous avez à la fois le Poggi et puis Maurice Clavel, qui a été un des témoins, je crois vraiment très, très important de ce qui s'est joué à la fin des années, enfin, entre 68 et 74, quand a éclaté le grand débat sur le totalitarisme. Et Jean-François Bizot, fondateur de Actuel, qui lui aussi, par certains côtés, a été un acteur de tout à fait excitant d'une rupture de société. Ouais.
Et voilà. Du post-mai 68 avec Actuel, Nova. Et l'article écrit l'hommage que lui rend Marc Lambron est assez émouvant d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Oui. Quand Bizot est mort, c'était au printemps dernier.
Oui, septembre, oui.
Oui, non, c'était au printemps dernier. Je me souviens, et j'avais appelé Lambron tout de suite, je lui avais dit, écoute, il faut absolument que tu fasses quelque chose, il est tellement passionné dans les années 70, donc fais quelque chose sur Bizot, et du coup, voilà comment les choses se sont peu à peu assemblées.
Lyonnais tous les deux.
Voilà. Oui, exact.
Donc, on parlait de Maurice Clavel, Christian Jambé, philosophe, lui consacre un très bel article, en effet, rappelant le destin peu connu de Maurice Clavel, puisque c'est vrai que c'est un écrivain français complètement oublié.
Oui, enfin, la figure de Clavel est restée en mémoire beaucoup plus liée à des événements, somme toute, assez ponctuels, mais très médiatiques, enfin, comme sa fameuse sortie, là, parce que Messieurs les censeurs, bonsoir, quand il avait claqué la porte d'une émission. Et puis, dans une moindre mesure, le rôle qu'il a joué, un peu d'éveilleur à la question du totalitarisme, à l'époque où d'autres, comme Glucksmann ou Bernard Lévy, publiaient leurs essais sur Solzhenitsyn, etc.
Voilà.
Donc, ça m'importait beaucoup de ramener Clavel, là, justement, dans cette visibilité qui, aujourd'hui, est quand même extraordinairement, comme vous dites, extrêmement effacée, à un point incroyable.
Dans ce même numéro de janvier, d'ailleurs, dans votre journal littéraire, vous nous racontez votre voyage en Russie pour une rencontre exceptionnelle, Solzhenitsyn.
Oui, là, c'était en fait un...
D'ailleurs, ce qui fait un lien avec Clavel, puisque...
Bien sûr, oui. Oui, là, en fait, c'était un voyage à l'occasion d'un film qui est en cours de fabrication sur l'histoire de l'archipel du Goulag, du livre. Et donc, il y avait cette... éventualité de rencontrer Solzhenitsyn à Moscou, où il vit maintenant, retiré, et où la chance a été avec nous, donc on a pu le voir recueillir quelques propos qui ont trait spécifiquement à la façon dont ce livre, un des livres les plus importants du XXe siècle, s'est construit peu à peu. Donc c'était en effet une rencontre tout à fait exceptionnelle.
Et oui, et lui-même, enfin rien que son quand vous décrivez son physique.
Oui, parce que en fait, je ne sais pas ce que donnera ce film, mais concernant, si vous voulez, l'histoire de l'archipel Douglas, il y a des choses qui sont formidables à raconter, mais il n'y a pas de révélation fracassante. En revanche, concernant la personne même de ce Génitsyn, qui a maintenant 89 ans, et d'ailleurs, enfin, le hasard a fait que le jour où on s'est vu, c'était le jour de son anniversaire. Donc, bon. Mais il y a une présence physique vraiment, vraiment, vraiment impressionnante. C'est difficile à dire, parce qu'on est très vite dans le cliché, bizarrement. C'est curieux, mais il est très difficile de transmettre ça, parce que les mots sont un peu empoulés. Mais le fait est que la présence physique de cet homme, qui est maintenant un vieillard, a vraiment quelque chose de tout à fait impressionnant. Regard et la concentration.
Nous attendons de voir dans le film. Nouvelle, oui, j'espère.
J'espère aussi.
Nous arrivons au terme de notre émission. Nous n'avons pas pu évoquer tous les articles. Entre autres, il y en avait un assez amusant de Philippe Cobé sur l'esprit de petitesse.
Oui, et de Philippe Muret. Oui. J'étais content aussi d'associer Muret à ce numéro, qui a joué aussi sa carte avec sa faconde, son intelligence. Ça me tenait aussi à cœur de ne pas oublier Muret dans cette petite équipée-là.
Donc voilà, je renvoie nos auditeurs au numéro de la Revue des Deux Mondes de janvier. On le trouve en kiosque, en librairie ainsi que sur le site internet revuedesdeuxmondes.fr. Je vous dis au revoir et à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir Michel.
Merci.